D'abord, remercier Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, merci à toi et Hervé pour cette introduction qui me touche beaucoup. C'est vrai que je refuse beaucoup de choses, mais ça m'était difficile de refuser de venir à Bordeaux pour différentes raisons. Bien sûr, Bordeaux pour moi, c'est aussi un domaine de la rétrovirologie. Je suis souvent venu à Bordeaux pour faire des conférences dans le domaine de la rétrovirologie. On passait tout à l'heure devant la fondation Bergonié, qui m'a rappelé un certain nombre de conférences que j'ai faites à Bergonié. Et puis Bordeaux, c'est aussi très connu dans le domaine du VIH et les recherches dans le domaine du VIH-SIDA. Il y a bien sûr l'équipe d'Hervé, mais je vois d'autres visages dans la salle qui me sont bien familiers. Je suis heureuse aussi dans cette salle de voir plein de visages jeunes et je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui après vos examens. Alors pour cette conférence, après discussion avec Hervé, bon, j'ai donné le titre que vous voyez à l'écran, prévention, traitement du VIH-SIDA, les grands défis du 21e siècle. Certes, c'est pas moi qui veux vous parler de prévention, traitement en termes interventionnels, ni en termes de santé publique, mais plus peut-être sur les défis scientifiques que nous avons encore à affronter aujourd'hui. Alors avant de vous parler de ces grands défis, c'est vrai que moi aussi j'avais prévu de faire un petit peu d'histoire, pas de l'histoire des Nobel, mais de l'histoire de l'identification de la maladie SIDA et du virus, simplement parce que je pense qu'il faut garder en mémoire la façon dont les choses se sont passées avec la découverte de cette maladie et de ce virus qui sont, à mon avis, une aventure assez exemplaire. Cette première diapositive, c'est pour vous rappeler que la maladie elle-même a été identifiée aux États-Unis en juin 1981 avec les 5 premiers cas de pneumocystose qui étaient associés à un déficit immunitaire profond chez des patients, de jeunes patients homosexuels aux États-Unis. Très vite après, les premiers cas de sida étaient reconnus également chez des patients hémophiles. Et cette identification de la maladie chez les patients hémophiles ont été les premiers signes que cette maladie était probablement transmise aussi par le sang et plutôt par les dérivés du sang, ce qui laissait soupçonner rapidement qu'un virus pouvait être responsable de cette maladie nouvellement identifiée. La publication qu'Hervé vous a montré, 1983, décrivait ce virus que nous avions appelé à l'époque LAV. Si je vous montre aussi, c'est pour simplement indiquer que nous, les chercheurs de l'Institut Pasteur, si nous avons recherché ce rétrovirus comme étant possiblement impliqué dans la maladie SIDA, c'est parce que nous avons nous-mêmes été mobilisés par les cliniciens français qui s'étaient mobilisés sous forme d'un groupe de travail en France, car ils voyaient apparaître courant 82 les premiers cas de cette maladie, et comme les autres cliniciens se posaient la question, mais quel est cet agent responsable? Alors très vite, c'est avec nos collègues cliniciens épidémiologiques que nous avons mené cette aventure de recherche du virus responsable de cette pathologie. Et à leur demande, nous sommes intéressés à cette famille de virus que l'on connaissait à l'époque sous le nom de rétrovirus, en se disant, bon, possible que ça soit ce premier rétrovirus humain, unique rétrovirus humain identifié aux États-Unis, dénommé HTLV, pour à l'époque Human T Leukemia Virus, mais possible aussi que ça soit un autre rétrovirus, car HTLV était un virus qui ne tuait pas les lymphocytes, mais au contraire les immortalisait. Donc c'est une démarche que je dirais sans partir d'idées préconçues que nous avons utilisées avec nos collègues. Et c'est pour ça que je la mentionne, car souvent, il ne faut pas non plus partir d'idées préconçues dans le domaine de la recherche scientifique. C'est pour cela que nous avons aussi, avec Willy Rosenbaum, Françoise Brun, Vézinet, décidé de ne pas travailler sur un prélèvement d'un premier patient qui était atteint de sida, car l'hypothèse, bien sûr, était que ce virus soit dans leur lymphocyte T. Et lorsque Willy nous disait, mais ces patients en fin de maladie n'ont plus de lymphocyte T, c'était bien évidemment pas le bon moment d'aller rechercher le virus dans ces lymphocytes T. Et la réaction, bien sûr, du clinicien a été de nous dire, mais avant, vous savez, ils ont des lymphadénopathies généralisées, et nous de lui répondre, mais les ganglions, c'est un site d'éducation de la réponse immunitaire, donc est-ce qu'il serait possible d'avoir une biopsie ganglionnaire? Et voilà comment toute l'histoire a démarré dans cet échange, je pense, assez fructueux entre les chercheurs et les cliniciens. Cette première publication décrivait certes l'isolement d'un premier virus chez un patient à risque de sida et la capacité de propager ce virus dans des lymphocytes en culture. Il montrait aussi que l'activité réverse transcriptase de ce virus fonctionnait tout à fait dans les conditions de la réverse transcriptase du virus HTLV. Mais par contre, lorsque nous avons reçu de la part de Bob Gallo aux États-Unis des réactifs pour savoir si le virus que nous venions d'isoler avait des analogies, des homologies avec HTLV, eh bien, rapidement, avec les anticorps spécifiques que nous avons reçus de Bob Gallo, dirigés contre la protéine P24 d'HTLV ou encore la protéine P19 d'HTLV1, nous sommes aperçus rapidement qu'il y avait en fait peu ou pas de réactions croisées avec ces protéines P24 et P19 de HTLV1 par immunofluorescence ou encore par radioimmunoprécipitation. Par contre, dans ce même papier, nous décrivions aussi qu'il y avait la présence d'anticorps contre le virus que nous venions d'isoler chez un second patient qui, lui, était par contre atteint de sida. Alors, c'était le début d'une aventure, comme je disais tout à l'heure, mais un début de 25 années de recherche qui ont été des recherches que j'appelle une recherche qui partait du lit du malade réellement pour arriver au laboratoire et du laboratoire pour repartir au malade avec des applications développées très rapidement en réponse aux résultats de la recherche. Vous le voyez sur cette diapositive, l'identification du virus et des antigènes viraux a conduit très rapidement au développement de tests de dépistage, des tests de dépistage sérologique qui avaient pour but, dans un premier temps, de prévenir la transmission par le sang et par les dérivés du sang, avoir aussi un certain impact à travers des activités de conseil et d'information pour la prévention par voie sexuelle du virus. Avoir aussi ces tests de dépistage qui nous ont permis, avec Françoise Brun-Vézinet et Christine Rouzioux, de mener les premières enquêtes séroépidémiologiques pour faire le lien entre le virus identifié en 1983 et la maladie SIDA à proprement parler, pour convaincre la communauté scientifique et médicale du monde entier que ce virus que nous venions d'isoler était bien l'agent responsable du SIDA. Nous avons très rapidement étudié le tropisme et nous sommes aperçus que ce virus était cytopathogène pour les lymphocytes T, CD4+, avec les immunologistes David Klatzmann, Jean-Claude Glückmann. Et c'est vrai que ces données sur le tropisme pour les lymphocytes CD4, la cytopathogénicité du virus, renforçaient l'idée que suivre le taux de CD4 chez les patients était un bon marqueur pour le suivi de l'évolution de la maladie SIDA. Rapidement, on a voulu caractériser aussi, commencer tout du moins à caractériser le cycle de réplication du virus, caractériser sa reverse transcriptase, et cela, ça s'est fait grâce à une mobilisation d'autres chercheurs comme Dominique Dormont, un grand ami d'Hervé Fleury et de moi-même, qui a malheureusement disparu et qui a beaucoup travaillé sur la caractérisation de la reverse transcriptase, commençait à étudier lui-même les premières molécules antirétrovirales avec un premier inhibiteur de la reverse transcriptase qui n'a pas porté ses fruits. Il a fallu attendre les années 80 pour voir l'AZT apparaître avec, comme molécule avec une certaine efficacité, mais rapidement aussi l'identification de résistance aux antirétroviraux chez les patients sous traitement sur AZT. Mais enfin, c'était les premiers développements des traitements par des antirétroviraux, les premiers résultats ensuite sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH par l'AZT puis par d'autres molécules. Et là, Bordeaux est bien placé pour avoir, avec l'équipe de François Dabis, avoir contribué à montrer avec l'essai d'ITRAM l'efficacité du traitement dans le cadre de la prévention de la mère-enfant en Afrique. La caractérisation du matériel génétique du VIH que nous avons engagé avec les biologistes moléculaires de l'Institut Pasteur, Simon Wenhobson, Pierre Sonigo, Marc Alizot et bien d'autres, ont abouti non seulement à la connaissance du génome complet, la démonstration finale que le virus n'était pas un HTLV, mais appartenait à la famille des lentivirus avec une organisation génétique assez complexe. Mais c'était aussi la première base pour le développement de nouveaux tests moléculaires pour le monitorage de la charge virale et des résistances aux antirétroviraux chez les patients sous traitement. La caractérisation de ce génome du VIH nous a permis aussi très vite d'identifier sa diversité. Sa diversité, Hervé en parlait il y a un instant, en fait, la diversité du VIH, dès 1984, avec Bruno Spier, qui a fait sa thèse sur ce sujet, nous savions que lorsqu'on comparait le virus d'un patient à un virus d'un autre patient, ces virus n'étaient pas identiques. Depuis, les choses ont bien évolué. On sait qu'il n'y a pas que le premier virus que l'on connaît sous le nom de VIH1, mais aussi un deuxième type de virus connu sous le nom de VIH2, identifié en 1986. On sait que le VIH1 est certainement le virus qui est responsable, en tous les cas pour le groupe M de VIH1 de l'épidémie mondiale, puisque plus de 90% des cas d'infection sont par ce groupe M de VIH1. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres groupes de VIH1, le groupe O, découvert en 1994, et le groupe N, découvert en 1998, sur lequel nous avions travaillé avec François Simon et l'équipe du Centre Pasteur de Yaoundé au Cameroun. Hervé le mentionnait, ces virus sont très variables et il y a un nombre de sous-types VIH1 du groupe M extrêmement important qui montre jusqu'à 30% de divergence entre eux, un nombre de plus en plus grand de formes virales recombinantes de VIH1 qui sont décrites dans la littérature. Souvent, une question qui intéresse les gens, c'est de dire, mais d'où il vient ce virus? Quand est-il apparu? Eh bien, pour le VIH2, qui reste pour l'instant quand même très localisé dans la région Afrique de l'Ouest, qui lui aussi est divisé en sous-types, vous voyez sur cette diapositive que selon les sous-types, on estime globalement l'apparition de ces infections VIH2 entre 1924 et 1959. Pour le VIH1, lui, l'origine est plus l'Afrique du centre-ouest, dirons-nous, avec les dates que vous voyez mentionnées ici qui varient. Ce sont des dates qui sont basées essentiellement sur des analyses phylogénétiques des virus que l'on connaît aujourd'hui, mais aussi pour certains sur des isolats de virus que l'on a pu obtenir à partir de matériel qui était conservé en Afrique. Et voyez, pour le groupe M de VIH1 majoritaire, selon les études, l'apparition est située entre 1915 et 1941. D'où vient-il ce VIH1 et ce VIH2? Les données, là aussi, aujourd'hui, de la littérature sont assez claires pour dire que les virus VIH proviennent du singe, d'une introduction de virus de singe chez l'homme. Pour le VIH2, c'est assez clair depuis assez longtemps, avec le lien phylogénétique très fort que vous voyez ici entre le VIH2 et le virus des singes mangabé, singes que l'on retrouve dans la même région d'Afrique de l'Ouest. Quant au VIH1, les groupes N et O ont un lien très proche avec les virus du chimpanzé, comme vous le voyez sur cette diapositive. Et pour le groupe O, plusieurs données indiquent en fait que ce VIH1 du groupe O aurait une origine du gorille. Alors, ces introductions chez le singe sont des introductions extrêmement rares. Il est bien évident que l'épidémie actuelle n'a rien à voir avec nos petits cousins, les singes. Au cours du temps, nous avons beaucoup appris aussi sur l'histoire naturelle de l'infection au VIH. Cette histoire naturelle, elle est schématisée sur cette diapositive. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette diapositive. Je vous la montre simplement pour dire qu'il nous paraît clair aujourd'hui que dans la maladie SIDA, tout se décide très tôt, très vite après l'infection. Dans cette zone, malheureusement la souris ne marche pas très mal, mais dans cette zone ici grise, très tôt après l'infection, c'est là que tout se décide quant au devenir des patients et de l'évolution ou non vers un sida. On sait que très vite après l'exposition au virus, s'établissent des réservoirs viraux dans les organes lymphoïdes des patients. On sait aussi que après le pic de virus, il y a aussi des anomalies d'activation du système immunitaire, des anomalies d'activation des lymphocytes B, des lymphocytes T chez les patients. On en arrive même à dire aujourd'hui que les marqueurs d'activation des cellules T sont des meilleurs marqueurs de pronostic d'évolution ou non vers un sida que le suivi de la charge virale ou le suivi des CD4 sanguins. Aujourd'hui, quels sont les déterminants de la pathogénèse? Pour faire court et bref, je dirais que bien sûr, dans les déterminants de la pathogénèse, il y a l'infection par le VIH, l'établissement des réservoirs et la réplication du virus chez l'hôte. Et puis, bien sûr, ce virus aussi est capable d'induire des signaux extrêmement précoces d'activation anormale des cellules T, avec très vite aussi des anomalies de profil cytokinique inflammatoire chez les sujets, bien que souvent on dit que le sida est globalement une maladie de l'inflammation. Donc, deux composantes majeures de la pathogénèse, qui est l'infection elle-même et les anomalies d'activation que cette infection peut provoquer chez l'homme. Ce que l'on sait depuis ces dernières années, c'est qu'il y a une disparition précoce et massive des lymphocytes T au niveau de l'intestin, en particulier des lymphocytes T mémoire qui expriment les marqueurs CD4 et CCR5. Cette infection est associée à une destruction rapide de la muqueuse intestinale, et la destruction de cette muqueuse intestinale va conduire au passage de composants microbiens à une translocation microbienne par certains produits, comme par exemple du LPS, que l'on retrouve dans le plasma des personnes qui sont infectées. La grande question qui se pose aujourd'hui, est-ce que cette translocation microbienne, est-ce que ces constituants microbiens sont la cause ou la conséquence de l'activation anormale des cellules T que l'on observe chez les patients? Ça pourrait être effectivement une des causes. On sait très bien que le LPS, par exemple, peut provoquer une activation des cellules T. Donc, un domaine de recherche en pleine évolution. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'il y a bien évidemment un impact à la fois de la génétique de l'individu, de l'hôte, et des déterminants génétiques du virus lui-même qui vont jouer un rôle dans le devenir de cette infection, tant d'un point de vue impact sur la réplication du virus que impact sur les signaux précoces d'activation anormale chez les patients. Alors, mon topo aujourd'hui va être de vous parler surtout de ce que l'on peut apprendre justement des différents profils d'infection VIH, puisque tous et tous ne sont pas égaux face à cette infection. J'aimerais vous parler en particulier des résultats sur ce groupe tout à fait particulier de personnes que l'on appelle les contrôleurs d'élite, qui sont des sujets extrêmement rares, qui sont moins de 1% des personnes infectées par le VIH, qui sont capables de contrôler tout à fait naturellement la réplication du virus. Et donc, c'est un excellent modèle pour essayer de comprendre les mécanismes de protection contre l'établissement de réservoirs viraux et contre est capable de protéger contre la réplication du virus chez l'hôte. Il existe aussi d'ailleurs chez les singes, chez le singe d'Asie qui développe aussi lorsqu'il est infecté par le SIV une maladie SIDA, aussi des contrôleurs d'élite, des singes qui sont capables de contrôler leur virus naturellement. Je vous parlerai aussi d'un autre modèle qui intéresse beaucoup Michaela Muller dans mon laboratoire depuis longtemps. C'est les modèles de singes africains qui, eux, sont porteurs d'un virus naturellement, mais ne développent pas la maladie SIDA. Et eux ne contrôlent pas la multiplication du virus. Par contre, ils n'ont pas d'anomalie d'activation de leurs cellules T. Donc, les deux modèles sont en fait complémentaires. Dans un cas, on contrôle la réplication. Dans l'autre cas, on contrôle l'activation anormale des cellules T. Et dans les deux cas, en tous les cas, il n'y a pas d'évolution vers un SIDA. Alors, que peut-on apprendre des contrôleurs d'élite? Le travail que je vais vous présenter représente un travail qui est soutenu par l'Agence nationale de recherche sur le SIDA, qui soutient une cohorte de contrôleurs d'élite, la cohorte P36. Il y a tout un réseau d'équipes qui travaillent en collaboration en France sur ce sujet. C'est un travail qui est coordonné par Olivier Lambotte. Et au sein de ma propre équipe, l'équipe de Gianfranco Pancino, que vous voyez sur cette diapositive, est impliquée avec notamment en particulier Azier Saez-Siron, qui travaille beaucoup sur ce sujet depuis maintenant quelques années. Qu'avons-nous appris? La cohorte française n'est d'ailleurs pas la seule. Il y a aux États-Unis l'équipe de Bruce Walker, qui travaille aussi beaucoup sur une cohorte d'élite contrôleurs. Cette diapositive n'est pas exhaustive, mais fait en quelque sorte un résumé de ce que nous savons aujourd'hui sur les contrôleurs d'élite. La première question qui avait été posée sur ces contrôleurs d'élite, est-ce qu'ils sont porteurs d'un virus défectif qui expliquerait pourquoi finalement il n'y a pas de charge virale détectable chez ces sujets. Et là, Christine Rousiou, en collaboration avec l'équipe du Kremer Reset, a rapidement démontré qu'en fait, non, ils sont porteurs d'un virus tout à fait normal, il n'y a pas de virus défectif chez ces sujets. Plus récemment, il y a une publication qui suggère que l'enveloppe des virus de ces élites contrôleurs a une capacité plus difficile de se lier aux cellules cibles du virus, et donc l'entrée de virus chez ces élites contrôleurs est plus lente et moins efficace. Mais vous voyez surtout sur cette diapositive que, en fait, ce que l'on apprend le plus, c'est sur les déterminants de l'individu qui expliquent pourquoi ces sujets contrôlent ou ne contrôlent pas. Les déterminants de l'autre sont effectivement extrêmement importants. Alors, des études ont commencé à être faites sur le rôle de l'immunité innée. J'en parlerai peu parce que ces études sont encore extrêmement préliminaires et méritent, à mon avis, d'être développées. Par exemple, on sait qu'un allèle d'un des récepteurs des cellules NK, le récepteur KIR3-DS1, qui est associé à une protection vers l'évolution, vers l'absence d'évolution vers un sida, eh bien, en fait, la fréquence de cet allèle est faible chez les élites contrôleurs et n'explique pas, donc, leur protection d'évolution contre la maladie sida. Il y a aussi, dans le papier, indiqué que les cellules NK de ces élites contrôleurs ont une capacité limitée à éliminer les cellules TCD4+ infectées, mais ceci est fait in vitro et c'est limité sur les cellules TCD4+. Donc, je crois qu'il faut peut-être d'autres données de la littérature. Pour la réponse en anticorps efficace chez ces sujets, là aussi, je l'ai mis en italique, car la publication récente d'Olivier Lambotte montre qu'il n'y a pas de différence dans les taux d'anticorps neutralisants chez les élites contrôleurs versus des patients virémiques ou des patients sous traitement traités par des antirétroviraux. Il y a juste une faible augmentation de leur ADCC. Par contre, vous voyez les faits les plus marquants. Les faits les plus marquants, c'est premièrement, on voit chez ces sujets une fréquence bien plus importante des allèles HLA-B27, B57, qui pourraient expliquer une sélection de TCR favorable, une meilleure présentation d'antigènes et une présentation d'antigènes hautement conservés chez les élites contrôleurs. En d'autres termes, l'impact de facteurs génétiques. HLA, B27 et B57 n'expliquent cependant pas tout, car même si la fréquence est élevée, tous les élites contrôleurs ne sont pas B27, B57. En ce qui concerne la réponse TCD4, on constate premièrement qu'il n'y a pas d'épuisement des cellules TCD4+ chez les élites contrôleurs comparativement aux patients virémiques, qu'il n'y a pas non plus de dysfonctionnement de leurs cellules TCD4, qu'il y a une haute avidité de la réponse des cellules TCD4+ pour les antigènes GAG du VIH1. Et on constate aussi que ces sujets ont une faible réponse en cellules T régulatrices qui pourraient expliquer ce que je vais vous énoncer dans un moment concernant le niveau d'activation de leur réponse TCD8+. En effet, ce qui caractérise la majorité des contrôleurs d'élite, c'est cette réponse TCD8+ optimale décrite aujourd'hui, y compris au niveau des muqueuses. Les cellules CD8+, chez ces sujets, prolifèrent normalement. Les cellules TCD8+, sont polyfonctionnelles, comme ceci est démontré en regardant la sécrétion de cytokines, de perforine ou de granzyme B. Et ces cellules TCD8+, ont surtout une forte capacité à supprimer l'infection VIH. Et cette capacité suppressive est liée en fait à une réponse spécifique des antigènes GAG de VIH1. Alors pour vous illustrer cette capacité suppressive, j'ai choisi cette diapositive d'Azier dans notre laboratoire. En fait, au départ, la question que nous posions au laboratoire, c'était de savoir si les lymphocytes TCD4+ des élites contrôleurs étaient capables d'être surinfecté par du VIH. En fait, quand Azier a réalisé cette expérience, vous le voyez ici, Sur la diapositive, oui, la réponse, oui. Les cellules CD4 des élites contrôleurs peuvent être surinfectées par du VIH. Par contre, quand on ajoute des cellules CD8+, de ces élites contrôleurs, sans aucune stimulation extérieure, eh bien, ces cellules CD8+, suppriment la capacité réplicative du VIH dans les cellules CD4+, comme vous le voyez ici. Lorsque l'on regarde par rapport à des sujets virémiques ou des sujets sous traitement, vous voyez que les cellules CD8+, des patients sous traitement ou des patients virémiques n'ont pas cette forte capacité suppressive de la réplication du VIH dans les cellules CD4+. Vous voyez aussi que dans cette étude, plus récemment, en augmentant le nombre d'élites contrôleurs, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre, en quantité plus faible, 5 ici montrés sur la diapositive, certains élites contrôleurs pour lesquels les cellules CD8+ ont une assez faible capacité à supprimer l'infection VIH, comme vous le voyez ici en jaune. Et donc, cette population d'élites contrôleurs en jaune se distingue de la population ici en bleu, que l'on appelle les répondeurs forts, et ici, ces répondeurs ici, répondeurs faibles. Alors, qu'est-ce qui différencie les répondeurs faibles des répondeurs forts parmi cette population d'élite contrôleurs? Premièrement, je dirais que dans les deux cas, vous le voyez ici, les faibles et les forts répondeurs ont tous les deux certains marqueurs d'activation de leur cellule TCD8+, qui sont exprimés de façon faible. C'est le cas des CD38, par exemple. Donc, ça n'est pas ça qui distingue les élites contrôleurs, mais par contre, ça les distingue des patients virémiques ou des patients sous traitement qui, eux, expriment fortement CD38. Par contre, lorsqu'on regarde un autre marqueur d'activation HLA-DR, vous voyez ici que les forts répondeurs en bleu, décidément la souris, les forts répondeurs en bleu expriment fortement HLA-DR, alors que les faibles répondeurs expriment faiblement HLA-DR. On voit aussi, lorsqu'on étudie le phénotype des cellules T, des forts et des faibles répondeurs, que les faibles répondeurs ont un phénotype mémoire, leurs cellules T ont un phénotype mémoire, comme le montre l'expression de certains marqueurs comme CD27 ou CD45-RA. Ce qui nous a amené à nous poser la question si, en fait, puisqu'il y avait un niveau faible d'activation T chez les faibles répondeurs, si ce n'était pas lié à une absence de stimulation antigénique chez ces faibles répondeurs, ou alors s'il y avait d'autres mécanismes de contrôle. Et cette hypothèse d'absence d'activation antigénique chez les faibles répondeurs, en fait, se confirme, puisque vous voyez sur cette diapositive ici, entourée, lorsqu'on regarde la fréquence des rebonds virologiques chez les faibles répondeurs versus chez les forts répondeurs, il y a des rebonds virologiques, alors que chez les faibles répondeurs, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que ces forts répondeurs ont en permanence une activation de leur cellule T par ces rebonds de virus. Les faibles répondeurs donc sont caractérisés par l'absence de rebond virologique mesuré au niveau plasmatique. Ils ont un faible niveau d'activation et un phénotype mémoire de leur lymphocyte CD8+. Et je ne vous l'ai pas montré, mais chez ces sujets, il n'y a pas du tout de perte de leur lymphocyte CD4+, alors qu'il y a une légère perte chez les autres sujets. Alors, bien sûr, la question aujourd'hui, c'est se dire pourquoi, quels sont les mécanismes, aussi bien chez les forts ou les faibles répondeurs. Chez les faibles répondeurs, certainement qu'il y a d'autres mécanismes que les lymphocytes TCD8+, qui éliminent les cellules TCD4 infectées. Est-ce que ces faibles répondeurs sont infectés par un virus à fitness réduite. Est-ce que il y a chez ces faibles répondeurs une efficacité de leur réponse innée? Ceci fait l'objet d'études à l'heure actuelle par les différentes équipes qui travaillent avec le groupe ANRS. Pourquoi on se pose la question sur l'immunité innée? Eh bien, parce que cette immunité innée, on sait bien sûr que c'est la première réponse contre une agression extérieure, et on sait que de plus en plus que cette réponse innée joue un rôle important dans l'activation, la maturation des cellules TCD4+, en bref, dans la réponse T à la fois CD4 et CD8, et que donc cette immunité innée pourrait jouer un rôle dans la progression ou non vers un sida. Dans les composantes de l'immunité innée, il y a bien sûr les cellules NK, mais vous voyez en cinétique, je reproduis ici une publication de Alter parue cette année, les cellules, la réponse NK arrive après la réponse en cytokines différentes comme l'IL-15 ou encore l'interféron alpha qui est l'une des premières cytokines qui est sécrétée en réponse à une infection. Et l'interféron alpha est sécrété par beaucoup de cellules, mais notamment par les cellules dendritiques et les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Et il ne faut pas non plus oublier que cette interaction entre les cellules dendritiques et les cellules natural killer, un des acteurs de l'immunité innée, où les cellules dendritiques et les cellules T jouent un rôle essentiel à l'activation de la réponse immune. Alors, nous, on essaye de nous poser cette question du rôle de cette réponse rapide chez des sujets dans la protection contre l'évolution vers un sida en s'intéressant à ces modèles singes dont je vous parlais il y a un instant. Et ça, c'est ce que fait dans mon laboratoire l'équipe de Michaela Müller, Trudwin ici, depuis des années. Qu'est-ce qu'on connaît sur ces modèles simiens? Nous ne sommes pas les seuls à travailler dessus. L'équipe de Silvestri, de Dweck aux États-Unis s'y intéresse de plus en plus. Mais on sait que chez ces singes d'Afrique, l'infection est persistante, le virus se réplique, le virus n'est pas un virus atténué, la charge virale chez ces singes est élevée, elle est aussi élevée que dans les infections pathogènes. Mais ce qui distingue les infections pathogènes comme celle du macaque ou celle de l'homme, de l'infection non pathogène pendant la phase chronique, c'est, vous le voyez ici sur cette diapositive, l'activation T en phase chronique qui est très élevée dans les modèles pathogènes, qui est quasi absente dans les modèles non pathogènes. Et ce que l'on observe dans cette phase chronique de l'infection est corrélé en fait avec les niveaux d'interféron alpha, puisque vous voyez que dans les modèles non pathogènes, il y a peu d'interféron alpha détectés en périphérie, alors que dans les modèles pathogènes, on continue à détecter un certain niveau d'interféron alpha, et que dans la phase chronique aussi d'infection, ce que l'on voit au niveau interféron alpha correspond au profil d'expression de gènes stimulés par l'interféron alpha, comme le gène MIX1 par exemple, qui est exprimé à bas niveau dans les modèles non pathogènes comparativement aux modèles pathogènes. Alors nous sommes posé la question, l'équipe de Michaela s'est posé la question d'étudier l'interféron alpha, d'étudier par micro-arrêt en fait quels sont les gènes qui sont modulés au cours de l'infection. La première question qu'on s'est posée, c'est regarder les profils de cytokines inflammatoires et anti-inflammatoires chez les singes non pathogènes, représentés ici, versus les singes infectés et qui développent un sida. Et vous avez ici ce que l'on observe en phase aiguë ou en phase chronique dans les deux modèles. Vous voyez que les cytokines pro-inflammatoires sont surtout retrouvées dans les modèles pathogènes, à la fois en phase aiguë et en phase chronique, peu ou pas dans les modèles non pathogènes. Les profils de cytokines anti-inflammatoires sont détectés en phase aiguë dans les modèles non pathogènes et tout le temps dans les modèles pathogènes. Et puis la grosse différence, c'est l'interféron alpha. On revient sur cet interféron alpha qui est détecté de façon importante en phase aiguë et reste détectable en phase chronique dans les modèles pathogènes et détecté uniquement et de façon transitoire en phase aiguë dans les modèles non pathogènes et plus détecté ou pas détecté dans l'infection chronique des modèles non pathogènes. Alors, pour vous schématiser ce qui a été fait par le groupe de Michaela, par MicroArray, elle a voulu regarder les profils d'expression des gènes stimulés par, par l'interféron à différents temps après exposition au virus chez les singes, dans les cellules CD4+, du sang périphérique et des ganglions. Je vous montrerai là que les résultats du ganglion qui sont très parlants, à mon avis. Il suffit de regarder le rouge et on voit que dans les AGM, le modèle non pathogène, les cellules CD4+ de ces AGM expriment ces gènes stimulés par l'interféron très vite, mais de façon transitoire, puisque à 65 jours après l'infection, ici, on commence à voir une disparition de l'expression d'un certain nombre de gènes stimulés par l'interféron. Au contraire, dans les modèles pathogènes, ici, dans les ganglions, vous voyez que l'expression est plus tardive, mais surtout se maintient tout le temps. Donc il y a visiblement des différences dans l'expression d'interférons et de gènes stimulés par cet interféron dans les deux modèles pathogènes, non pathogènes, avec cependant un paradoxe. Un paradoxe parce que lorsque l'on regarde, le recrutement des cellules plasma cytoïdes dendritiques qui sont cette catégorie de cellules qui produisent beaucoup d'interférons alpha, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une différence énorme entre les modèles pathogènes et non pathogènes. Et puis on s'aperçoit que aussi lorsqu'on stimule la production d'interférons alpha par les cellules dendritiques plasmacytoïdes sanguines dans ces modèles par une stimulation TLR9, eh bien là aussi on s'aperçoit que chez l'homme on a une forte stimulation, une plus faible stimulation dans les modèles non pathogènes. Par contre, quand on stimule par le virus lui-même, SIV, on s'aperçoit que chez l'homme, la stimulation existe surtout quand il y a pendant la phase chronique et que la stimulation est plus faible dans les modèles pathogènes. En d'autres termes, aujourd'hui, on a des données un peu paradoxales. On sait que ces PDC, ces cellules dendritiques plasmacytoïdes qui sont fortement sécrétrices d'interférons alpha, elles sont moins recrutées au niveau d'organes lymphoïdes comme les ganglions chez les modèles non pathogènes. Pourtant, il y a de l'interféron alpha produit, même à hauteur plus faible, et puis il y a une forte expression très vite de ces gènes stimulés par l'interféron. Donc ça nous en arrive aux conclusions suivantes. Est-ce que la production modérée d'interféron alpha durant la phase aiguë d'infection non pathogène, ça veut dire qu'un minimum de production d'interféron alpha est peut-être nécessaire pour avoir une protection contre le sida? C'est une question que l'on peut poser. Est-ce qu'un faible niveau d'interféron alpha, comme il est induit, provoque une expression forte des gènes stimulés par l'interféron? Et donc, ce qui voudrait dire que la voie d'interféron est peut-être très fonctionnelle dans les cellules des AGM. Est-ce que cette réponse interféron alpha, qui est forte mais transitoire chez les AGM, là je parle des gènes stimulés par l'interféron, est-ce que c'est le résultat d'un mécanisme de régulation précis chez les singes? Eh bien, ce sont bien sûr des questions que nous essayons de résoudre aujourd'hui. Enfin, est-ce que l'expression différentielle de ces gènes stimulés par l'interféron, notamment dans les organes lymphoïdes, quel est leur rôle pour protéger les AGM d'une réponse innée et avoir une réponse innée tout à fait appropriée chez ces singes pour contrôler notamment les phénomènes d'inflammation au niveau des organes lymphoïdes secondaires, Ce sont des questions que nous essayons de répondre aujourd'hui. Mais pour terminer, je dirais que dans la pathogénèse du sida, qui me paraît être essentielle pour essayer de développer les thérapies et les vaccins de demain, il nous faut absolument prendre en considération pas un seul acteur de la réponse de l'autre, mais le dialogue entre les différents acteurs de la réponse de l'autre. Certes, les cellules plasmacytoïdes dendritiques, ces cellules productrices d'interférons dont je viens de parler, mais on sait que ces cellules jouent un rôle dans l'activation aussi des cellules myéloïdes dendritiques, que ces cellules myéloïdes dendritiques jouent un rôle elles-mêmes lors du dialogue avec les cellules tueuses naturelles pour activer les cellules NK, cellules NK qui en contrepartie peuvent jouer un rôle sur la maturation et l'activation de ces cellules dendritiques qui vont jouer un rôle elles-mêmes dans la réponse et l'activation des réponses T, TCD4, TCD8, mais aussi dans la réponse B et puis aussi dans l'activation des cellules T régulatrices. Donc l'ensemble de ces acteurs de l'immunité doit être pris en considération. On commence à avoir des pièces du puzzle que vous voyez ici, mais certaines pièces commencent à s'assembler pas mal. Il nous manque encore des pièces. Et notre ami singe nous dit qu'est-ce que vous allez encore nous trouver demain. Et c'est ce qui nous manque à trouver demain pour développer encore d'un point de vue recherche nos connaissances sur les événements très précoces, en particulier dans la phase extrêmement aiguë de l'infection. Quelles sont ces anomalies d'activation précoces, ces signaux précoces qui aboutissent aux anomalies d'activation du système immunitaire, de mieux connaître le dialogue entre ces cellules de l'immunité innée et l'immunité adaptative que je viens de vous mentionner. Et c'est par cette connaissance qu'à mon avis nous connaîtrons mieux les mécanismes de protection eux-mêmes contre l'infection VIH et aussi de protection contre l'évolution vers un sida tout en prenant en considération la génétique de l'hôte. Il nous faut mieux comprendre l'établissement et la persistance des réservoirs viraux si on veut développer des stratégies thérapeutiques et vaccinales de demain. Enfin, on connaît beaucoup de choses sur l'interaction entre des facteurs du virus, des protéines du virus et des facteurs cellulaires. Je n'ai pas montré la diapositive aujourd'hui, mais il y a une diapositive publiée dans la littérature qui montre combien l'interaction est multiple entre protéines cellulaires et protéines virales. Néanmoins, certains vecteurs viraux sont certainement pas encore identifiés et on a besoin de les identifier de façon à développer de nouvelles cibles thérapeutiques pour demain. Enfin, il faut mieux comprendre les complications au long terme du traitement. Il faut aussi prendre en considération dans l'infection VIH, les co-infections VIH, tuberculose, VIH, hépatite, VIH, CMV, etc. C'est à partir de ces connaissances que nous pourrons développer ces nouvelles stratégies thérapeutiques et vaccinales de demain. Parmi celles-ci, j'ai mentionné des données qui commencent à apparaître sur l'utilisation des RNA interférents en thérapeutique, qui pourrait être une approche de demain. Bien sûr, on n'en est pas là, il y a encore beaucoup de travail à faire. On pourrait aussi se poser la question par rapport au rôle éventuel, si elle se confirme, de la translocation microbienne dans l'activation anormale, de limiter cette translocation microbienne par les thérapeutiques de demain. Et puis, on peut aussi penser aux vaccins thérapeutiques de demain. Les défis thérapeutiques, ils sont nombreux, même s'il y a un bénéfice immense en termes de survie chez les patients sous traitement et même si on voit aujourd'hui des progrès dans l'accès au traitement dans les pays en développement. Mais je l'indique sur cette diapositive, seulement 30% environ des personnes qui ont besoin d'être traitées sont aujourd'hui traitées. Il faut garder en tête que pour chaque personne qui débute un traitement, 2 à 3 nouveaux cas d'infection. J'ai déjà mentionné les complications sous traitement. Et donc, il faut arriver à trouver une solution pour les traitements de demain, mais nous affrontons à ces problèmes des réservoirs et de la persistance virale. Dans le domaine de la prévention, il y a eu des succès j'ai mentionné au début, le gros succès, le premier gros succès, ça a été la prévention de la transmission mère-enfant, même si là encore, il y a des progrès à faire, en particulier pour prévenir la transmission par le lait. Il y a eu des succès partiels pour la prévention de la transmission par voie sexuelle et des recherches en cours sur prévenir aussi des co-infections qui facilitent, on le sait, l'infection VIH. Je pense notamment aux co-infections par les virus herpès, par exemple. Je pense surtout, en fait, à l'utilisation des ARV en prophylaxie pré- et post-exposition, y compris voir l'utilisation des ARV comme, entre guillemets, microbicides. Et quant à la recherche vaccinale, Hervé le mentionnait. Alors, la recherche vaccinale, c'est le gros problème, la déception depuis ces années de recherche. C'est un véritable défi, car nous avons affaire à un virus variable qui échappe à la défense immunitaire. Avec cet établissement précoce, je reviens sans arrêt dessus, des réservoirs viraux qui posent aussi le problème pour le vaccin. Gardons en tête que nous avons affaire à un virus qui se transmet surtout d'une cellule infectée à une cellule non infectée. Donc c'est cette transmission-là qu'il faut arriver à bloquer. Les mécanismes de protection ne sont pas connus. Le virus lui-même affecte les fonctions des principaux acteurs de l'immunité. Il affecte la réponse NK. J'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui. Il affecte aussi les fonctions des cellules dendritiques. Et donc, bien sûr, c'est à prendre en considération dans la qualité de la réponse immunitaire, ces altérations de fonctions des cellules de l'immunité. Les modèles animaux, on est limité au modèle macaque, en particulier pour la recherche vaccinale. Bref, il est clair pour nous qu'il faut faire un retour à la recherche fondamentale pour mieux comprendre les mécanismes de protection eux-mêmes, même si ça n'empêche pas de continuer une recherche un peu plus empirique avec des essais vaccinaux basés sur les premiers résultats encourageants. Il faut arriver simplement à un bon équilibre entre recherche fondamentale et recherche clinique. C'est un peu l'objectif que s'est mis en tête la Global HIV Vaccine Enterprise, qui a pour rôle de promouvoir, coordonner la recherche au niveau international. Alors, repenser les stratégies vaccinales de demain, j'en finirai là. Pour l'instant, ces stratégies vaccinales, je dirais qu'elles étaient basées sur cette voie-là. Essayer de cibler les cibles du vaccin, c'est les constituants du virus qui sont impliqués dans l'infection VIH elle-même. Quels composants? Bien sûr, l'enveloppe pour essayer d'empêcher l'infection par des anticorps neutralisants. Des constituants de GAG, voire de NEF, pour essayer d'avoir une réponse en cellules T, CD8, à activité cytotoxique capable d'éliminer les cellules infectées. C'est la plupart des cibles virales sur lesquelles les candidats vaccins étaient constitués, étaient des isolats viraux de sous-type B ou divers sous-types, pas forcément des virus qui étaient identifiés peu après l'infection elle-même. Or, il y a de plus en plus de données de la littérature, même s'il y a une certaine controverse, qui montre qu'en fait, après l'exposition au virus, il semble que les virus qui sont transmis sont des variants qui ont un tropisme CCR5 et des variants CCR5 uniques. Il n'y a aucun candidat vaccin aujourd'hui qui a été étudié, développé, sur la base de ces variants CCR5 transmis très tôt, que l'on détecte très vite chez les patients après infection. Donc c'est peut-être une voie à entreprendre. Et puis je me demande aussi si dans les candidats vaccins de demain, il ne va pas falloir inclure des constituants viraux qui sont responsables, eux, des tout premiers signaux pathogènes précoces. Je veux parler de ces signaux qui induisent une anomalie, des altérations de la fonction, voire les anomalies de l'activation T en particulier. Alors ces déterminants-là, pour dire la réalité, on les connaît mal. Et donc, il y a encore beaucoup de recherches aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre ces déterminants viraux responsables très précocement de la pathogénicité pour les cellules T. Bref, ça pourrait être un candidat vaccin combiné, comme on a des antirétroviraux combinés, hautement efficace, qui ciblerait à la fois l'infection et les signaux pathogènes induits par le virus, pas seulement au niveau du sang périphérique, mais aussi au niveau des sites effecteurs, en particulier, bien sûr, au niveau de la muqueuse. Voilà, je terminerai là pour induire votre réflexion, et bien sûr, si vous avez quelques questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci.
Une question pour initier peut-être la réaction de mes collègues. Tu pourrais nous faire quelques commentaires sur les deux essais de vaccination qui ont été réalisés, je crois l'un en Thaïlande et puis l'autre l'essai Merck.
Pour l'essai, je commence par l'essai thaïlandais, la phase 3 qui est en cours. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats. Les résultats seront présentés, il y aura déjà des informations au mois de septembre de cette année. L'essai thaïlandais phase 3 en cours, c'est un essai sous forme prime boost. On primait la réponse immunitaire avec un candidat vaccin, on revient derrière pour un rappel avec un deuxième candidat vaccin. Les candidats vaccins en question sont des canary pox, et on revient avec une protéine recombinante derrière. Comme rappel. Donc ceux-là, je ne peux pas donner les résultats, on ne les a pas encore. Par contre, pour le Merck, les résultats de fin 2007 ont été particulièrement décevants. Pour ceux qui ne savent pas, le candidat vaccin Merck était un adénovirus 5 dans lequel avaient été insérés des gènes du VIH, correspondant notamment à GAG, à POL et à NEF. Et ce candidat vaccin pensait être particulièrement prometteur parce qu'il y a eu des résultats, notamment chez le singe, qui montraient une diminution significative de la charge virale chez les animaux vaccinés avec ce candidat vaccin. En fait, dans la phase 3 qui a été réalisée, les études ont été particulièrement décevantes puisque une partie des volontaires, non seulement il n'y avait aucune efficacité du vaccin, mais une partie des volontaires vaccinés ont montré une facilitation de l'infection par la vaccination par ce candidat vaccin. Bien sûr, l'essai a été immédiatement arrêté, y compris l'autre partie de l'essai qui se faisait en Afrique du Sud. Il y a eu un sommet aux États-Unis, où tout le monde s'est assis pour réfléchir justement au futur de la recherche vaccinale, et puis aussi pour essayer de comprendre pourquoi il y avait eu une facilitation chez ces volontaires. Les premières données indiquaient que tous les volontaires pour lesquels il y avait eu un phénomène de facilitation, c'était des volontaires qui avaient déjà une réponse contre l'adénovirus 5 assez élevée, en termes d'anticorps neutralisant l'adéno 5, ce qui permet de suggérer que peut-être il y avait déjà une activation de leur système immunitaire, si bien que, comme le VIH aime bien l'activation, c'était un terrain favorable pour l'activation des cellules et donc l'infection et la réplication du VIH très rapidement après exposition de ces personnes à l'infection. Il y a aujourd'hui des résultats, on avait déjà parlé l'année dernière, mais ce que j'entends dire ces derniers temps, c'est que les chercheurs américains reviennent beaucoup dessus pour dire que finalement ces sujets qui ont été infectés plus facilement avaient une infection par l'herpès de type 2 qui expliquerait cette facilitation, que c'est pas l'activation dû à la réponse adéno qui expliquerait leur facilitation à l'infection. Bon. Je crois qu'il faut attendre un petit peu les résultats, mais ils reviennent beaucoup en ce moment sur l'idée que c'est l'infection par herpès type 2 qui explique cette facilitation.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur la connexion ?
Si, c'est bon.
Ça marche ?
Oui, très.
La relation entre les contrôleurs élites et les HLA B27 et 57 ?
Que vous dire de plus ? Il y a des études en cours aujourd'hui pour étudier la qualité de présentation d'antigènes chez ces sujets HLA B27 et B57. Les données de la littérature indiquent, je les ai indiquées brièvement, montrent déjà qu'il y a une avidité plus grande pour les cellules CD4+, avec d'un point de vue réponse GAG, épitope GAG. Mais une fois de plus, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur HLA B27, B57, parce que c'est une forte proportion des sujets, mais ce n'est pas tous. Donc on ne peut pas l'expliquer à 100% uniquement, en tous les cas, par HLA B27, B57. Probablement une meilleure présentation d'antigènes, c'est ce qu'indiquent les résultats aujourd'hui.
Oui, est-ce qu'il y a une...
Antigène GAG, je parle. GAG.
Une dernière question.
Oui, Simon. Qui dit développer la recherche fondamentale, surtout in vivo, dit chercher des modèles pour réaliser ces études. Et est-ce qu'il y a, sachant que les modèles simiens est au dehors de toute possibilité économique de la plupart des laboratoires, est-ce qu'il y a des progrès dans d'autres modèles pour faire ce type d'études ?
Chez la souris, la réponse est non. Il y a des modèles simiens, souris humanisées, développés, mais il n'y a aucun modèle réellement chez la souris satisfaisant, pour moi. Et le meilleur modèle reste aujourd'hui, pour les études sur le VIH-SIDA, le macaque. Et encore, il faut faire très attention chez le macaque, car ça dépend de la voie d'inoculation, ça dépend du virus qui est utilisé chez le macaque, l'utilisation de... Et ça dépend de la question qu'on pose. Il faut faire très attention au choix du virus, au choix de la voie d'inoculation en fonction de la question posée. Et bien sûr aussi essayer de plus en plus ce que les chercheurs et les centres de primatologie essayent de faire, c'est de se coordonner pour travailler aussi avec des animaux mieux connus génétiquement parlant, en particulier les macaques aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas autrefois. Essayer aussi, ce qui a été bien fait chez l'homme, je regarde François parce que moi je trouve que... Bon, tous les essais cliniques sont faits avec une très bonne méthodologie des essais cliniques. Malheureusement, chez les singes, dans les études précliniques, il n'y a pas eu cette qualité. Et souvent, on critique le modèle. Et moi, je dis, bon, critiquons d'abord de la façon dont les choses ont été faites, parce que ça n'a pas été fait dans les règles des bonnes pratiques, à ma connaissance.
Très bien. Merci beaucoup. Je souhaite au nom de tout le monde vous remercier encore pour cette très belle conférence et d'avoir accepté notre invitation.